Moncef Djaziri, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi les élections qui étaient prévues le 10 décembre dernier n'ont pas eu lieu ?
Bah écoutez, elles n'ont pas eu lieu parce que le référendum sur la Constitution n'a pas pu être organisé. Et donc l'annonce péremptoire qui a été faite par les Nations Unies et son représentant en Libye, M. Salamé, eh bien cette annonce malheureusement n'a pas été suivie d'effet. Elle ne sera pas suivie d'effet de sitôt.
Est-ce que ce retard n'est pas dû aussi aux violents combats qui ont fait rage à Tripoli pendant plusieurs semaines ?
Alors oui, les conflits qu'il y a eu en effet entre les milices à Tripoli, et ça montre que les élections ne peuvent avoir lieu que dans la mesure, en effet, où il y a une certaine démilitarisation des milices. Et du coup, ça montre bien la complexité de la situation, parce qu'il ne suffit pas, en effet, d'annoncer des élections pour que celles-ci puissent être organisées sans autre problème.
Est-ce que les fractures se sont aggravées, y compris dans l'Ouest, entre les milices de Tripoli et de Misrata, par exemple ?
Les fractures entre les milices de Misrata et de Tripoli, oui, ces milices donnaient l'impression à un moment donné, en effet, de pouvoir s'entendre, mais dès qu'on s'attaque aux intérêts des uns et des autres, eh bien, évidemment, les uns et les autres se rebiffent, si vous voulez. Mais je pense qu'il y a aussi le conflit qui oppose l'Est et l'Ouest à propos du pétrole, ce qu'on peut appeler, en effet, une fracture pétrolière. Les gens de l'Est, considérant que les ressources se trouvant essentiellement sur leur territoire, en revendiquent une bonne part et revendiquent également une part importante dans le pouvoir politique. Alors, du côté de l'Ouest, Tripoli et Misrata en particulier, ils estiment en effet que la proportion la plus importante de la population se trouvant sur leur territoire, il leur appartient d'exercer une influence déterminante sur les décisions.
Est-ce qu'en réalité le Premier ministre de Tripoli, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de Benghazi, le maréchal Haftar, n'ont pas peur des élections ?
Sans doute, parce que d'abord, ça leur garantit rien du point de vue d'un succès éventuel, mais c'est surtout parce que les élections, ça risque d'envenimer les conflits et de les exacerber, si vous voulez.
Au mois de mai à Paris et le mois dernier à Palerme, deux conférences internationales se sont penchées sur la Libye. Est-ce que les voisins et est-ce que les grands peuvent apporter la solution ou au contraire peuvent jeter de l'huile sur le feu ?
Bah écoutez, on voit bien des intérêts contradictoires, aussi bien des voisins que des grandes puissances. C'est-à-dire qu'on voit bien que les intérêts de l'Italie, c'est à la fois des intérêts géostratégiques et économiques. L'entreprise nationale italienne du pétrole était très influente, elle l'est encore, et n'oublions pas la question de la reconstruction de la Libye. Outre le fait, la question de l'immigration pour l'Italie.
D'où le soutien du gouvernement de Rome au Premier ministre de Tripoli, Fayez al-Sarraj.
D'où le soutien, en effet, au gouvernement Sarraj, le soutien tient également aux gens de Misrata. Alors, la France, eh bien, la France essaie de montrer qu'elle peut avoir une influence positive par rapport à la période de Sarkozy et ce qui s'est passé en 2011, si vous voulez. Et puis, bien entendu, elle essaie de s'assurer des intérêts économiques.
Et la France, elle est plutôt pour Sarraj à Tripoli ou pour Haftar à Benghazi ?
Bien entendu, elle soutient Sarraj parce que c'est le gouvernement internationalement reconnu, mais en même temps, elle soutient le pouvoir à l'Est, c'est-à-dire elle reconnaît le Parlement de Tobrouk. Elle entretient des bonnes relations avec le maréchal Haftar et donc elle essaie de jouer sur les deux tableaux.
Et la Russie a-t-elle choisi son camp ?
Alors je pense que la Russie laisse entendre en fait qu'elle n'a pas choisi son camp. Mais on voit bien qu'elle penche davantage du côté de l'Est parce que c'est du côté de l'Est qu'on tend davantage la main si vous voulez. Et donc elle pense pouvoir exercer une influence en Libye en soutenant le pouvoir à l'Est et celui de maréchal Haftar. Vous avez vu comme moi les différents voyages du maréchal Haftar à Moscou, le dernier déplacement du président du Parlement de Tobrouk à Moscou.
Et parmi les pays du Moyen-Orient, y a-t-il deux axes ? D'un côté, la
oui.
Turquie et le Qatar, et de l'autre, l'Égypte et l'Arabie Saoudite ?
Alors, il y a en effet deux axes. Il y a l'axe Russie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais leurs positions convergent pour soutenir l'Est, et maréchal Haftar en particulier. Puis alors, de l'autre côté, vous avez très clairement le Qatar et la Turquie. Le Qatar, vous savez, il n'a jamais cessé d'apporter son soutien aux milices islamistes, soutien financier, militaire. Le Qatar et la Turquie. La Turquie soutient clairement les islamistes de Misrata et de Tripoli. D'ailleurs, le président du Haut Conseil des d'État, qui est donc la deuxième chambre en Libye, est un islamiste et voyage régulièrement en Turquie. Et voilà, un bateau a été arraisonné hier, hein, en provenance de Turquie, transportant des armes et des munitions à destination de la Libye.
À destination de quelle Libye ?
La Libye de l'Ouest. Tripoli est la région de l'Ouest.
Alors pour sortir de cette impasse internationale, l'envoyé spécial de l'ONU, le Libanais Hassan Salamé, veut organiser le mois prochain, en janvier, un congrès national inclusif, y compris avec des kadhafistes, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, en effet, le congrès national apparaît comme la solution miracle, et ce que j'en pense, c'est que, à mon avis, ça va être très laborieux. D'abord, comment coopter les membres de ce congrès ? Et en fonction de quels critères ? Et puis, qu'en est-il des kadhafistes, s'agissant de leur degré de représentation ? Et puis alors, lorsque ce congrès aura été organisé, qu'en est-il de l'actuel Parlement de Tobrouk ? Est-ce que ce Parlement est définitivement caduque ? Et quel sera le rôle politique de ce congrès ? Est-ce que ce congrès est appelé à s'institutionnaliser ?
Oui, mais Moncef Djaziri, est-ce qu'il ne vaut mieux pas un congrès que rien du tout ?
Alors, bien entendu, il est plus constructif de réunir les gens et de leur permettre de discuter que de leur donner l'opportunité de s'entre-déchirer. Mais, d'un autre côté, faut-il encore assurer un débouché, une perspective à ce congrès ? Faut de quoi il sera aussi décevant que les autres. Parce que nous n'avons pas parlé de l'accord politique de Skhirat, dont on fête le 3e anniversaire ces jours-ci. Ben, vous voyez les déceptions qu'il a laissées.
Oui, mais c'était au Maroc, alors que le prochain congrès aura lieu en terre libyenne.
Alors c'est un fait, pour le moment, mais nous ne savons pas encore. Vous savez, parce que en terre libyenne, c'est ce qui est souhaité par les uns et par les autres, c'est-à-dire par les Libyens comme par les Nations Unies. Mais faut-il encore qu'il y ait les conditions de sécurité ?
C'est un défi sécuritaire.
C'est un défi sécuritaire et c'est aussi un défi politique.
Mais selon vous, y a-t-il une alternative à ce congrès ?
À mon avis, il faudra repartir sur de nouvelles bases. On voit bien que l'accord politique ne résout rien. On voit bien que les institutions que l'accord politique a créées ne fonctionnent pas. On voit bien que le référendum constitutionnel n'aura pas lieu de sitôt. Et puis alors, pour organiser les élections, il faut une loi électorale. Pour qu'il y ait une loi électorale, il faut savoir à quoi on se réfère, c'est-à-dire quelle constitution. Alors, c'est un peu le cercle vicieux dans tout cela. Et à mon avis, à un moment donné ou à un autre, il faudra bien repenser l'ensemble et repartir sur de nouvelles bases pour une nouvelle période de transition. Avec un nouveau conseil présidentiel pour les trois régions, avec un gouvernement de technocrates qui aura la charge de relancer l'économie, de pacifier le pays, de reconstruire les institutions. Et ce scénario, si vous voulez, implique forcément alors le remplacement de l'actuel représentant de l'ONU qui, il faut bien le reconnaître, a échoué finalement, puisque jusqu'à maintenant, il n'a atteint aucun des objectifs qu'il s'était lui-même fixé.
Professeur Djaziri, merci.